mardi 21 janvier. Dans 2 mois, c'est le printemps et même avant. Alors, ça y est, cette semaine, la loi qui impose le pass vaccinal a été validée. On savait que cette histoire puait, mais bon, ça s'est fait très 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 vite. C'est mardi prochain. Ça commence le 25 janvier avec les contrôles et le dispositif qui va être mis en place.
Et oui, parce que avec une annonce hier, jeudi 20, et une mise en vigueur le 24, soit lundi, et ben ça laisse 4 jours. Et ça rappelle l'urgence qui avait eu lieu aussi cet été quand ils ont passé, mis en place le pass sanitaire et pas vaccinal. Et ça, c'était alors qu'ils l'annonçaient pour l'automne, ils avaient fait un coup de force, comme là, exactement de la même manière, un coup de force pour le passer à l'Assemblée et le faire valider. Donc, l'urgence sanitaire, elle a bon dos pour faire passer quand même des lois de manière très autoritaire et des lois aussi qu'on peut questionner dans leur enjeu autour de la liberté.
Et du coup, ben, on a décidé de ne pas se soumettre à cette pression et de ne pas parler du pass vaccinal aujourd'hui. On en parlera plus tard.
Bon, quand même, pratiquement, il y a quelques questions urgentes sur lesquelles on est quelques-unes à se pencher. Par exemple, mais on va y répondre plus tard. Mais on se demande comment, à partir de quand nos vaccins sont périmés, on n'a pas tout compris, des dates de péremption des vaccins des personnes qui ont déjà été vaccinées. À partir de quand aussi les Covid, les passes Covid, combien ils vont durer, combien tout ça, tout ça. Et aussi, on essaiera de dire un peu plus comment on se vaccine ou quel vaccin, etc. Si on se vaccine.
Et une nouvelle grève des éboueurs dans la métropole ex-Marseille-Provence a été votée mercredi à l'unanimité par les agents du syndicat FO. Et du coup, on voulait le dire en édito parce que c'est bien la troisième et seulement un mois après la fin de la dernière grève. Et la métropole n'a pas respecté l'accord oral sur le temps de travail négocié en décembre. Et du coup, ces accords portaient donc sur une décote de 15% par rapport à la durée légale du temps de travail des éboueurs et une prime versée aux agents qui travaillent le dimanche et la nuit. Globalement, c'est un manque de considération des enjeux des agents d'entretien. Et heureusement, FO et la CGT ne lâchent pas.
Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de ce qui se passe à Herbel, de l'ouverture de Parcoursup, de la nuit de la solidarité, de l'afro-véganisme et de la mort d'Elsa Suarez.
Alors, du coup, on commence avec la nuit de la solidarité.
Herbel.
Oui, j'ai l'impression qu'il y avait la brève sur Herbel.
Ah. Tout à fait. Du coup, là, c'est sa cause de rénovation urbaine. C'est Nadia Haï, qui est ministre déléguée à la ville, qui était à Marseille la semaine dernière pour la mise en œuvre du plan Marseille en grand. J'adore les mots utilisés par le gouvernement et choisis pour le gouvernement. Donc, elle s'est rendue notamment à Herbel dans le 11e et à la Buisserine dans le 14e. Et donc, ça, c'est deux des quartiers marseillais qui font l'objet d'une vaste opération de rénovation urbaine depuis de nombreuses années. Donc, Herbel, c'est un quartier qui a été construit dans les années 70, qui est un quartier de 25 hectares. Il fait partie des 14 quartiers prioritaires du nouveau programme national de renouvellement urbain, lancé en 2014. Et à Herbel, deux tours de la cité de 6000 habitants sont voués à la démolition. Et actuellement, 290 locataires sont sans garantie sur leurs conditions de relogement. Et alors que la ministre et les urbanistes modélisent le quartier de demain, les associations de locataires organisent une réunion publique le 29 janvier à 14h. Donc on va vous lire le tract du syndicat des quartiers populaires de Marseille pour défendre les intérêts des habitantes et des quartiers populaires plutôt que les annonces gouvernementales sur les rénovations. À cause du projet de rénovation urbaine, près de 300 familles d'Herbel vont devoir quitter leur logement. Elles vont être relogées hors de leur quartier alors qu'elles n'ont pas demandé à partir. Au cours des derniers mois, l'Amicale des locataires d'Herbel et l'association Il fait bon vivre dans ma cité ont rédigé une charte de relogement pour protéger les droits des habitants et pour faire en sorte que chaque famille obtienne le meilleur relogement possible en termes de quartier, de nombre de pièces, de contrat d'énergie et pour que les loyers n'augmentent pas avec le relogement. Les bailleurs, donc il y en a trois, la métropole et l'État n'ont toujours pas tenu la réunion publique promise aux habitantes et habitants. Surtout, ils refusent de garantir que les loyers et les charges n'augmenteront pas. Si nous ne faisons rien, le relogement va aboutir à une augmentation importante des loyers et des charges, ce qui est inadmissible. C'est un nouveau signe de mépris pour les habitantes d'Herbel qui dure déjà depuis des années. Herbel est le premier quartier de Marseille qui va connaître le nouveau programme de rénovation urbaine avant beaucoup d'autres. Ce qui se passe et ce que l'on gagnera à Herbel concerne tous les quartiers populaires et toutes les cités HLM de Marseille. Donc réunion publique le samedi 29 janvier 2022 à 14h.
Et on continue avec les brèves. Du coup, on s'éloigne un peu de Marseille. Ça concerne un peu tout... la France, comme on dit, même les gens ici. Et c'est depuis hier, du coup, l'ouverture des inscriptions à Parcoursup. Alors, ce n'est pas encore très, très clair si c'est vraiment les inscriptions ou si on peut juste se balader parmi les 19 000 et quelques formations qui sont proposées. J'ai lu quelque part qu'apparemment, concrètement, on ne peut pas encore s'inscrire, mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler, mais plutôt, en tout cas, cette annonce qui était un peu dans tous les médias hier, nous donne envie de rappeler comment Parcoursup, c'est quand même un dispositif très problématique qui vient creuser définitivement les discriminations qui habitent l'éducation nationale dès que, et concernent les gens dès qu'on y arrive en maternelle ou les personnes y arrivent. Mais Parcoursup, donc, c'est un logiciel ou c'est un algorithme avec des critères que certaines définissent opaques, mais qui sont des critères très clairs et qui sont des critères discriminatoires. Opaque, certes, parce qu'on ne les connaît pas tous, mais c'est construit sur des critères qui sont discriminatoires et qui viennent creuser donc les inégalités et les discriminations. Ça a commencé hier, on suivra un peu au cours de l'année, là, au cours des prochains mois, pardon, les évolutions. Peut-être qu'un jour, on essaiera d'appeler aussi le fameux numéro vert auquel, quand on est vraiment en difficulté, on peut appeler. Mais pour aujourd'hui, on va juste vous lire un communiqué qui est sorti hier de Sud Éducation, le syndicat. Alors, Parcoursup, toujours davantage une machine de tri social. Aujourd'hui, les lycéennes sont appelées à formuler leurs vœux sur Parcoursup. Cette plateforme organise la concurrence entre les élèves, établissements du secondaire et du supérieur. Cette concurrence prend la forme d'un véritable tri social entre les élèves. Les algorithmes des établissements de l'enseignement supérieur favorisent en effet les élèves issus des lycées prestigieux du centre-ville au détriment des élèves scolarisés dans les quartiers populaires et les périphéries urbaines. En plus du critère géographique, les lycées peuvent faire apparaître leur choix pédagogique, entre guillemets « choix pédagogique », introduisant comme ça un biais supplémentaire dans un processus de sélection qui n'en manque déjà pas. C'est comme ça que les lycées privés ont pu, l'année passée, afficher qu'ils avaient privilégié leur image de marque en maintenant un enseignement en classe entière au détriment des établissements du secteur public qui avaient instauré les demi-jauges en raison de l'urgence sanitaire. Depuis 2 ans, la scolarité des élèves a été particulièrement perturbée en raison de la crise sanitaire. Les élèves actuellement en classe de terminale n'ont connu que quelques mois de scolarité normale, on va dire. Ils et elles ont subi les confinements, un enseignement à distance dégradé, notamment en raison de l'incurie ministérielle, les absences répétées en raison de la circulation du virus en milieu scolaire. Les élèves, en particulier issus des classes populaires, seront conduites à se censurer. Les filles sont de nouveau particulièrement désavantagées. La réforme du bac et l'instauration de l'enseignement de spécialité ont produit un renforcement des disparités genrées dans l'accès aux spécialités maths, physique, chimie et SVT. Le ministre Blanquer et Vidal poursuivent pourtant la mise en œuvre de Parcoursup. Cette décision, alors que les élèves ont traversé une des pires périodes pour le système éducatif, révèle du cynisme. Sud Éducation rappelle sa revendication immédiate de la suppression sans délai des mentions du lycée d'origine ainsi que des activités extrascolaires des élèves. Poursuite d'éducation, Parcoursup doit disparaître et les places nécessaires doivent être créées dans les universités pour permettre d'accueillir tous et toutes les futures étudiantes dans une formation de qualité de leur choix, au moins à hauteur de 91 000 bacheliers et bachelières supplémentaires diplômés en 2021. Affaire à suivre.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
C'est les infos choisies de 12h30 et vous venez d'écouter Stromae, c'est sa dernière, c'est une nouveauté 2022. Et on parle maintenant de Nuit de la Solidarité, c'est ça ?
Oui, effectivement. Hier se tenait ce qu'on appelait la mascarade de la solidarité ou Nuit de la Solidarité, soi-disant pour aller à la rencontre des personnes sans-abri dans la rue. Cette opération, largement médiatisée par la ville, tiens, il n'y aurait pas des élections bientôt, a été organisée par les associations de lutte contre la précarité et d'aide aux plus démunis. Le but affiché était, et on les cite, d'aller à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion dans l'ensemble des rues et des quartiers de la ville, afin d'échanger avec elles à partir d'un questionnaire anonyme qui permettra d'avoir une connaissance actualisée de leur situation et de leurs besoins, distribution repas, meilleure connaissance des lieux de vie, etc. C'est également ce qu'ils affichent comme intention de compter à un instant T le nombre de personnes se trouvant en situation de rue c'est-à-dire n'ayant pas d'endroit où dormir pour la nuit ou dormant dans un lieu impropre au sommeil, voiture, tente, hall d'immeuble, etc. Et à mieux connaître le profil de ces dernières, ainsi que leurs besoins afin de faire progresser les dispositifs et politiques publiques d'accueil, hébergement et insertion.
Et tout ça, ça pose des questions. Était-ce réellement la première nuit de la solidarité ? Il n'y a jamais rien eu avant comme solidarité ? Et est-ce que c'était réellement une nuit de 15h à 22h30 ? Et pourquoi demander à un millier de bénévoles de faire un travail déjà fourni par des travailleurs sociaux et travailleuses sociales ? Pourquoi offrir quelques heures de temps gratuit pour aller exposer et mettre mal à l'aise des personnes en leur faisant peser le poids d'un questionnaire et aussi de stéréotypes bien ancrés ? Est-ce pour raviver la bonne vieille charité, une sensation apaisante pour les nantis d'avoir aidé et contribué ? Ou est-ce pour culpabiliser les personnes sans-abri de leur situation ? Est-ce que les gens leur apportaient au moins un repas hier soir ? Est-ce que c'est pour redorer le blason de la gauche en période présidentielle ? En tout cas, c'est surtout un gros coup de com', cette nuit de la solidarité. Et au-delà, c'est toujours et bien surtout l'enjeu de la précarité et des solidarités qui existent et qui sont à faire continuer.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors moi, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui des écrits de Silko et Afko, deux sœurs afro-véganes, féministes, états-uniennes, philosophes et activistes, qui me donnent de la force et de l'espoir vers une certaine confluence de lutte. Bon, je précise d'abord, je suis blanche, je ne veux pas me réapproprier leurs pensées, mais simplement la faire connaître, parce que je trouve leurs idées en fait carrément révolutionnaires par le lien qu'elles font entre libération noire et libération animale. Af et Silko ont coécrit entre autres Afroism, Essays on Pop Culture, Feminism and Black Veganism, en français Afroïsme, Essais sur la culture pop, le féminisme et l'afro-véganisme, paru en 2017 aux USA chez Lantern Books et qui n'est pas encore traduit en français. Alors quand Afko a lancé son site Black Vegans Rock, les véganes noirs sont cool, en 2015, une des remarques qui lui a été le plus faite est « Mais qu'est-ce que la race a à voir avec le véganisme ? Le véganisme n'est censé concerner que les animaux. » À ça, Silko répond « Ce que dit l'afro-véganisme, c'est que le racisme et la suprématie blanche sont anti-noirs et anti-animaux. Nous pensons que les concepts d'être humain et d'animal sont des concepts raciaux. » Voilà en quelques mots ce qu'est l'afro-véganisme. Alors il y a eu le livre de Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande, le livre de Breeze Harper, Sister Vegan, fait de témoignages de femmes afrodescendantes véganes. Et plus récemment, j'ai aussi entendu Myriam Bahafou, écoféministe végane, dans le podcast Kif Taras. Et c'est réjouissant de faire un grand pas dans l'approche de la question animale avec elles toutes, et aussi d'un point de vue situé avec Af et Silko. Alors, elles écrivent tour à tour ou ensemble. Le véganisme semble différent des autres types de lutte contre des oppressions intra-humaines en raison de la centralité des victimes non humaines dont nous sommes censés nous occuper. Mais pourquoi ne pas établir des liens entre les oppressions auxquelles nous sommes confrontés et les oppressions auxquelles d'autres groupes sont confrontés, qu'ils soient humains ou non, afin d'avoir une vue d'ensemble ? En fait, le véganisme ne peut pas être centré sur les animaux, même si nous le souhaitons. C'est nous qui parlons de ce problème et qui agissons en conséquence. Il faudra donc toujours qu'il s'agisse un peu de nous aussi. Le racisme est simultanément anti-noir et anti-animal, comme le montrent l'élévation et la célébration par l'idéologie raciale de l'humain et de l'humanité, en particulier en tant qu'occidentaux et blancs. Ce simple fait nous échappe, tant dans le mouvement vegan que dans le mouvement antiraciste. Le fait de fusionner véganisme et noir dissuade d'adhérer au mythe selon lequel la question animale est une question isolée ou peut être comprise ou traitée en considérant l'utilisation, la maltraitance des animaux et la rhétorique habituelle de la souffrance et de la compassion. Dans l'état actuel du mouvement vegan, l'approche conventionnelle est celle dans laquelle la plupart des gens limitent leur attention aux conditions matérielles ou physiques des animaux non humains. On ne se concentre que très peu, voire pas du tout, sur la colonialité et les concepts qu'elle fournit, ce qui garantit qu'il y aura toujours un problème animal. Tant que nous continuerons à négliger la dimension coloniale de ce problème, nous continuerons à saper nos propres efforts. Par dimension coloniale, je ne fais pas référence à la colonisation littérale des animaux non humains, dans la mesure où nous nous sommes emparés de leur corps ou les avons retirés de leur terre pour les confiner dans certains espaces en fonction de nos besoins et de nos intérêts. Ce que j'ai à l'esprit, ce sont les concepts qui soutiennent la colonialité et qui sont responsables de la hiérarchisation non seulement des êtres humains, mais de tous les êtres de la planète. L'afro-véganisme n'est pas un mouvement. Ce n'est pas une déclaration et il ne fournit pas de réponse définitive aux questions difficiles sur ce que sont nos devoirs envers les membres non humains de la planète. Nous ne fournissons pas de plan substantiel pour démanteler la colonialité. Ce sont des questions énormes et je ne veux pas les prendre à la légère. Nous ne disposons pas encore des ressources créatives nécessaires pour apporter bon nombre de ces réponses. Une partie de la tâche de la colonialité est de s'assurer que certains futurs restent inimaginés, que certaines idées restent impensables, de sorte qu'il semble que tout ce que nous avons maintenant est tout ce que nous avons pour travailler. En termes simples, l'afro-véganisme est un outil méthodologique pour réactiver nos imaginations. Il est conçu pour relocaliser la question animale dans un espace nouveau et frais, pour trouver des réponses nouvelles et fraîches, ainsi que pour bénéficier à tout être opprimé. Depuis ce nouveau point de vue, tout travail sérieux de démantèlement devra aller plus loin que la façon dont nous voyons et nous traitons les unes les autres. Le démantèlement du racisme exigera également que nous reconsidérions la façon dont nous considérons et traitons toute vie. Alors voilà, si ça vous a intéressé et que vous avez envie de lire ce bouquin et éventuellement participer à une traduction collaborative, eh bien, écrivez aux infos, infovendredi@gmail.com.
Et merci beaucoup. Un petit famage maintenant, Elsa Soares est une très grande chanteuse brésilienne, est morte hier à l'âge de 91 ans de cause naturelle. C'était un personnage public incontournable au Brésil. Elle a marqué plusieurs générations et a surmonté les différents régimes politiques. Plus d'une trentaine de disques à son actif pendant plus de 60 ans de carrière. C'est assez ouf. En 99, la BBC l'avait sacrée chanteuse brésilienne du millénaire, carrément. Voilà, du coup, on va écouter A Carne, qui est une chanson de lutte et de combat pour les personnes noires. Et le refrain en portugais dit « La viande la moins chère du marché est la chair noire ».
Santa Clara para Claria. Santa Clara para me ajudar. É a casa.
Se liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito.
Pode acreditar.
De algum antepassado da cor.
Liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura só serve no peito.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
A cara dura só serve no peito.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Acho que não é fácil, né?
Ces dernières nouvelles partagées.
On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Au revoir.
À bientôt.
Ciao, ciao.
There's a bird sinking through the sky. And every hour